l'actu des oubliés. Saison 5. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, nous retournons sur le continent africain, où les répliques du séisme provoquées par la jeunesse kényane continuent de se propager. Nous en parlions dans notre premier épisode. Le Kenya a connu une vague contestataire inédite, en partie victorieuse, puisqu'elle s'est soldée par l'abandon de la loi de finances 2024 et l'annulation de celle de 2023. Davantage encore que les victoires, l'énergie débordante et décomplexée de la jeunesse malgré les tirs à balles réelles, ainsi que l'absence de leaders et de récupération politique, ont marqué profondément les esprits et suscité l'émergence d'un rapport nouveau à l'engagement politique. Cet élan ne s'est pas arrêté au Kenya. Alors même que les manifestations se poursuivaient à Nairobi, la contestation s'est élargie aux pays voisins, peuplés eux aussi d'une jeunesse de plus en plus nombreuse, laissée pour compte et désabusée par l'impasse que constitue l'économie globale mondialisée. Au Malawi d'abord, les appels à manifester apparaissent dès le 27 juin, soit 2 jours après la prise du parlement de Nairobi, au Kenya. Les marches sont nommées Malawi Shutdown Demonstration, soit manifestation pour bloquer le pays. Le 8 août, les musiques et les chants résonnent dans les rues du pays et plusieurs marches s'enchaînent. Le 13, plus de 10 000 personnes se réunissent dans la capitale Lilongwe. Dans les autres grandes villes, les cortèges sont également fournis pour dénoncer la vie chère et appeler le président à mener une politique économique en faveur des plus précaires, notamment par la stabilisation de la monnaie et par la lutte contre l'inflation. Contre la mauvaise gouvernance, les slogans réclament également des mesures pour plus de transparence, de responsabilité des élus et d'intégration de tous au processus législatif. Pour le moment au Malawi, les protestations sont restées lettre morte, mais elles se poursuivent sporadiquement. C'est ensuite en Ouganda que la génération Z tente de surfer sur la vague kényane. Victime de l'autocrate Yoweri Museveni, vieux de 80 années dont la moitié passée au pouvoir, l'Ouganda est soumis au néocolonialisme le plus rude, avec privatisation, pillage orchestré de ses ressources et maintien du pays dans une gangue sécuritaire. Au quotidien, la police d'État circule dans des véhicules banalisés, familièrement appelés drones, menaçant à tout moment d'enlever celles et ceux qu'elle considère comme ennemis du régime. Il est établi que le régime de Museveni est lié aux entreprises israéliennes qui ont mis en place les programmes informatiques d'espionnage de masse. Le régime a notamment eu recours au célèbre programme Pegasus du fabricant d'armes israélien NSO et la police ougandaise fait usage de la technologie Cellebrite qui permet de pirater les téléphones portables. Cette surveillance accrue est accompagnée d'une législation sur mesure pour condamner les prises de parole sur les réseaux et pour un tweet un peu trop engagé, le régime arrête, enferme sans limitation de durée et torture violemment, comme ce fut le cas pour de nombreux opposants et opposantes ces toutes dernières années. La dernière contestation d'ampleur en 2020 est symptomatique de ce que le régime est prêt à faire pour éteindre toute étincelle de révolte. Museveni avait alors rappelé une force militaire déployée en Somalie pour mater la contestation. La répression avait causé la mort d'une centaine de personnes et des milliers s'étaient retrouvés dans les geôles du régime. Les juges du pays sont nommés en personne par Museveni et le pouvoir ou ses exécutants n'ont ainsi jamais été inquiétés pour la brutalité qu'ils exercent sur la population. Il semble en revanche que celle-ci ne soit plus dupe. D'une part, l'opposition représentée par Bobby Wine, rappeur et chanteur surnommé Ghetto President, séduit les quartiers populaires par ses discours de rupture. Aux dernières élections, il obtient 35% des voix, score très honorable au vu de la mainmise du parti présidentiel sur la politique et les irrégularités constatées lors du scrutin. D'autre part, l'Ouganda est l'un des pays les plus jeunes au monde, avec 77% de la population âgée de moins de 25 ans. Les réseaux sociaux constituent une fenêtre ouverte à tous les vents, qui permet de s'identifier à la fois aux injustices subies et aux combats menés ailleurs. Il est aussi plus difficile pour l'élite de dissimuler les faits de corruption, de mauvaise gouvernance ou de collusion avec les multinationales. C'est ainsi que le discours nationaliste et anti-occidental de Museveni fait de moins en moins recette. Urbanisée, consciente de la dédicacence des services publics et du détournement de l'argent au profit des élites ou des entreprises occidentales, toute une partie de la jeunesse s'irrite et le témoigne sur les réseaux ou dans la clandestinité. En outre, comme l'explique Emmanuel Mutaizibua dans Afrique 21, la jeunesse a ses figures rebelles. Elle s'abreuve de textes de la poétesse Tela Nyanzi, qui compare le dictateur à une paire de fesses qui ne font que se trémousser, péter ou chier. Ou du romancier Kakwenza Rukirabashaya, auteur de Banana Republic, la république bananière, ou de The Greedy Barbarian, le barbare avide. L'auteur et l'autrice, emprisonnés et torturés par le régime et depuis exilés en Allemagne, demeurent des figures célébrées par celles et ceux qui rejettent le régime. Liberty we must reclaim, in this chaos, find who to blame. A real man can barely cope. Future stolen, losing hope. We rise up, stand side by side. Reject the bill, we shout with pride. Le mécontentement est palpable au quotidien, et le régime ne semble parfois tenir que par la terreur. Et lorsque l'opposition ne peut se vivre frontalement par le rapport de force, elle s'exprime par l'humour. Ainsi, en avril 2023, les réseaux sont inondés de photos montrant des nids de poules sur les routes pour dénoncer l'inaction des services concernés. Jimmy Spire Sentongo, à l'initiative du projet, invite citoyens et citoyennes à faire comme une exposition photographique des routes qu'ils traversent au quotidien. Pour accompagner l'une des photos, le slogan est jeu de mots « We no longer drive on the left, we drive on what is left ». Nous ne roulons plus à gauche, nous roulons sur ce qui reste. Puis, ce sont les infrastructures de santé qui sont la cible d'une exposition similaire. Et enfin, la gestion des déchets, après l'effondrement tragique d'une décharge qui a provoqué la mort de dizaines de personnes. Transformer ces tragédies en expositions humoristiques permet d'euphémiser le caractère protestataire des dénonciations pour leur donner plus de force en tant qu'œuvre documentaire. Tout en contournant la répression, elles permettent de montrer la réalité du pays. Finalement, Jimmy Spire lance le hashtag Exhibition Parliament, comme une sorte de MeToo parlementaire où chacun et chacune est encouragé à raconter les pratiques abusives de son député, les témoignages déferlent alors pour faire le récit de promesses non tenues, de détournements de fonds ou d'abus divers et variés. C'est dire si la révolte de la jeunesse kényane a soulevé l'espoir. Dès les premières manifestations et tout au long du mois de juillet, les liens entre les jeunesses des deux pays se sont fait sentir, et les répliques n'ont pas tardé à surgir. L'activiste Wounded Ugandan confie dans The Africa Report.
Nous avons été enhardis par les actions de nos voisins et voisines au Kenya. La génération Z a réveillé la jeunesse de l'Afrique de l'Est et plus largement de l'Afrique tout entière.
Comme au Malawi, la prise du Parlement kényan le 25 juin dernier a été un déclencheur. Aussitôt, le mot d'ordre « March to Parliament » est repris sur les réseaux. Une manifestation est appelée pour le 23 juillet. Une affiche porte le slogan « Marche sur le Parlement, c'est maintenant », adjoint d'un sous-titre tout aussi inspiré du Kenya, sans ethnie, sans parti, sans leader et sans peur. Selon Florence Brisset-Foucault dans Afrique 21, les initiatrices de cet appel sont des vingtenaires issus de la classe moyenne, déjà activistes, urbains et très éduqués. Une figure du régime est notamment visée et sa démission est exigée. Anita Among, présidente du Parlement, est mise en cause dans plusieurs affaires de corruption. Peu à peu, elle devient le symbole de la mauvaise gouvernance et la preuve que Museveni n'a aucune intention de faire le ménage parmi ses alliés politiques. Son attitude sur le terrain ne démontre pas autre chose. La veille du 23 juillet, Museveni fait déployer la police militaire qui barricade toutes les rues menant aux institutions dans la capitale. Toute la journée, les drones défilent dans la ville, installant une ambiance de zone de guerre, dit un habitant sur Reuters. Le président fait arrêter des cadres de l'opposition et prévient que les protestataires jouent avec le feu, rejette le fait que l'Ouganda soit une néocolonie et affirme que la lutte anticorruption est entre ses mains. Chamine Nambassa, l'une des personnes qui ont lancé la mobilisation sur les réseaux, promet à l'AFP « Nous sommes la jeunesse et le cœur de ce pays, nous n'allons pas le laisser tomber ». Le jour J, les protestataires se réunissent sur la Nasser Road. Les modes d'action kényans sont largement valorisés et mis en pratique. On délivre des consignes en amont et dans les manifestations, entre non-violence, appel au calme et développement de stratégies disruptives pour être capable de résister aux assauts de la police. Sur les pancartes, on peut lire « Les corrompus s'attaquent à la mauvaise génération » ou « Ceci est notre 1986 » en référence à l'année de la révolution populaire qui avait amené Museveni au pouvoir.
Anita Masuzane ! Anita Masuzane ! Anita Masuzane !
Dans la capitale Kampala, les marches tentent de converger vers le Parlement, mais la répression est intense. En tout, 73 personnes sont arrêtées sur cette seule journée. Une semaine de mobilisation est alors annoncée. Jusqu'au 30 juillet, des actions sont prévues dans les églises, dans les mosquées et devant les tribunaux, avant une autre grande marche dans les villes. Jusque début septembre, en réalité, les journées de mobilisation se répètent, davantage animées par de petits groupes très mobiles, capables de s'échapper rapidement en cas d'irruption des forces de l'ordre. La jeunesse ougandaise bénéficie du soutien de certains de ses aînés, en l'occurrence de l'Uganda Law Society, l'association ougandaise des avocats fondée dans les années 60, qui propose des avocats aux personnes interpellées par le régime. Comme au Kenya, des activistes mettent en place un site internet pour tenir à jour le compte des personnes arrêtées et disparues. Le 28 juillet, le journal Sunday Monitor titre « Tu n'es pas mon grand-père », avec une photo de Museveni. À la fois slogan de la jeunesse ougandaise et phrase témoin de l'époque « Not my grandfather », est clamé dans les marches par celles et ceux qui rejettent la tentative de Museveni de se mettre la jeunesse dans la poche avec un discours paternaliste. Ainsi, même si la vague contestataire est restée limitée et n'a jamais vraiment menacé le régime, elle témoigne d'une volonté d'une partie de la jeunesse de s'émanciper du jeu des partis, d'affirmer son indépendance tant vis-à-vis de Museveni que de Bobi Wine et sa volonté de transformer le pays par le bas. Sarah B. Nice, activiste ougandaise, poste le 13 septembre sur X.
Participer aux marches sur le Parlement à partir du 23 juillet nous a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. D'abord, que le système qui a été supposément mis en place pour nous protéger est plutôt source d'oppression et de harcèlement. Que ceux qui sont supposés nous sauver sont en fait en train de nous exploiter. Et la chose la plus confondante est que les lois mises en place pour protéger tes droits servent à t'arrêter, à t'emprisonner, quand tu es précisément en train d'exercer ces droits. And then the police will tell you that exercising your right to protest is an overestimation of your rights. Et alors la police te dira qu'exercer ton droit à protester est une surestimation de tes droits. C'est là que tu te rends compte que tout ce qui compose la structure de l'État et des institutions, du législatif au judiciaire, tout cela fonctionne contre toi. On television and says you guys are playing with fire. C'est ce qui explique que tu vives dans la peur et qu'à la télé le président t'explique que tu es en train de jouer avec le feu. Et à la fin les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres et tout fonctionne comme si nous n'étions pas un pays et que nous n'avions aucun droit.
Nous sommes début octobre et la jeunesse ougandaise ne lâche rien. Depuis le mois d'août, un suivi est mis en place sur les réseaux pour annoncer et relater les jugements des 115 personnes poursuivies pour des marches entre le 23 et le 30 juillet, pour dénoncer des abus de pouvoir et appeler régulièrement à de nouvelles marches, comme à la fin du mois d'août où des sit-ins se sont tenus devant les parlements provinciaux. Les réseaux sont régulièrement alimentés d'affiches ou de personnes défilant en petits groupes, à l'image de ces trois femmes arrêtées début septembre et finalement libérées 10 jours plus tard. Leur marche et leur procès a été grandement suivi sur la toile. Et en parallèle, circule un mot d'ordre national à sortir manifester dans les rues le 9 octobre, jour de la fête nationale qui célèbre l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. Elle coïncide avec une réforme constitutionnelle du système électoral rejetée par le peuple et veut continuer à dénoncer la corruption, encore et toujours en exigeant la démission d'Anita Among. Affaire à suivre. C'est au Nigeria que pour le moment, l'élan kényan s'est le plus transmis à la jeunesse. Au 1er août démarre dans le pays le plus peuplé du continent africain un cycle de 10 jours de contestation pour dénoncer les mêmes choses. La vie chère, l'inflation qui atteint 34%, l'accaparement des ressources et la mauvaise gouvernance. La colère étant alimentée par l'augmentation des inégalités et l'opulence affichée de l'élite au pouvoir. Selon le rapport sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde 2024, 164 millions de Nigérians et de Nigérianes sont dans une situation d'insécurité alimentaire, sur une population de 220 millions. Le Nigeria est pourtant l'une des économies les plus dynamiques du continent, à tel point qu'on le considère comme l'une des puissances émergentes du XXIe siècle. Malgré ça, il est le pays où vivent le plus grand nombre de personnes en extrême pauvreté, plus encore qu'en Inde. En 20 ans, le pétrole a lui seul permis de développer le pays et de mettre en place une politique de subvention sur les carburants et les produits de première nécessité pour atténuer la misère. Or, la baisse de la production de pétrole et la faible diversification de l'économie ont conduit à mettre les finances publiques dans le rouge. La population est donc nettement plus pauvre qu'au sortir de la dictature militaire en 1999. Et la situation s'est encore profondément aggravée dans les 15 derniers mois. Le président Bola Tinubu s'est fait élire sur des promesses de réformes courageuses pour améliorer la situation économique. Son élection est en soi un scandale. Il ne reporte que 9 millions de voix, soit 10% des inscrits. Et le soir de son accession au pouvoir, il fait volte-face et annonce la suppression immédiate et sans préavis des subventions au carburant, suivant aveuglément les recommandations du FMI. Dans un pays où de nombreuses personnes n'ont que peu accès à l'électricité, les générateurs à essence tournent à plein régime et le prix du fioul se répercute sur tous les secteurs de la vie. Le prix de l'essence triple, la Banque mondiale applaudit. Et dans le même temps, l'élite politique continue de rouler dans de grosses voitures dont l'essence est financée par l'argent public. Durotimi Dawodu, entrepreneur et militant contre la vie chère, déclare à la BBC
« Nos politiciens ne se soucient pas des gens parce qu'ils sont éloignés des problèmes. Ils ne se soucient pas de savoir si les hôpitaux vont mal parce qu'ils ne sont pas personnellement concernés. Nous voulons une constitution axée sur le peuple dans laquelle nous pourrons décider de la manière dont notre pays est dirigé. »
Comme au Kenya, la mobilisation démarre sur les réseaux sociaux avec le hashtag « End bad governance in Nigeria ». Des semaines à l'avance, un nombre croissant de personnes appellent à 10 jours de mobilisation à compter du 1er août. Le mouvement se construit petit à petit, à travers la coordination d'au moins 26 organisations, sans qu'aucune d'entre elles ne tente de s'arroger la contestation. Aucun leader n'émerge non plus. Ce sont les revendications répétées inlassablement sur les réseaux qui reflètent la colère plutôt que les discours de tel ou tel dans une stratégie de prendre le pouvoir. C'est la jeunesse qui l'a aussi fait entendre sa colère et sa désillusion face aux promesses politiciennes. Au Nigeria, 70% de la population a moins de 30 ans. C'est dire qu'elle pèse quand elle occupe la rue. L'annonce de ces 10 jours de rage inquiète visiblement le gouvernement, qui double le salaire minimum dès le 22 juillet, de 17 à 41 euros par mois, largement insuffisant pour la coordination, qui réclame qu'il passe à l'équivalent de 146 euros. Le pouvoir quadrille alors les villes importantes avec des forces de l'ordre déjà équipées et prêtes pour le début des manifestations. Sur les réseaux, les comptes pro-gouvernement font circuler de fausses vidéos, laissant entendre que les protestataires auraient posé des bombes dans une rue de Lagos ou montrant de prétendus voleurs conspirés pour infiltrer les manifestations. Le jeudi 1er août, le peuple répond à l'appel, en particulier à Lagos, mégalopole de 16 millions et demi de personnes, et à Abuja, la capitale, où la police tire des gaz lacrymogènes pour éloigner les protestataires des institutions. Un manifestant déclare à TV5 Monde
« Il faut qu'ils partent. Laissez la jeune génération prendre le pouvoir. Ces gens qui nous gouvernent depuis 1960 disent que ça va aller de mieux en mieux, mais c'est de pire en pire. Ce sont ces gens-là qui ruinent notre pays, qui mettent leurs enfants à l'école à l'étranger et qui gâchent l'éducation ici au Nigeria. »
Le Nigeria des provinces se mobilise également. Dans l'état du Benue, au centre du pays, à Port Harcourt, et dans l'état d'Oyo, au sud-ouest, et même dans le nord du pays, à Kano ou Maiduguri. Chose plutôt inhabituelle étant donné la situation sécuritaire dans cette partie du Nigeria. Une population variée, massivement jeune mais pas seulement, et même un grand nombre de femmes chantent leur refus de la vie chère. Par endroits, toute la population semble quitter les maisons pour déferler dans les rues. Les nombreuses vidéos et photos diffusées sur la toile montrent des villes fantômes et des cortèges fournis, où résonnent les slogans tels que « Hunger Day Every Day »,« On a faim tous les jours »,« For another strike with mass protest now »,« Pour une nouvelle grève avec des manifestations de masse maintenant » et « We need study grants, not loans »,« Nous avons besoin de bourses d'études, pas de prêts ». Taiwo Otitolaye, militant des droits civiques depuis plus de 40 ans, explique.
Les citoyens sont sortis dans la rue parce qu'il y a une faim extrême et une pauvreté abjecte dans le pays. Les ménages n'ont pas de quoi tenir, les familles retirent leurs enfants de l'école.
Selon lui, la stratégie de construire un mouvement sans leadership permet d'éviter que le mouvement ne se retrouve coopté par une force politique, voire militaire, qui finira par l'éteindre, comme ça avait pu être le cas dans les années 90.
Pendant les manifestations, en ce temps-là, les militaires venaient à la tête des cortèges pour prendre le contrôle du mouvement et s'assurer que la lutte resterait dans le cadre qu'ils voulaient imposer. Mais cette fois-ci, on constate que diverses coalitions et groupes agissent en collectif dans le but de mettre fin à la mauvaise gouvernance.
Le rôle passif des syndicats est également pointé du doigt. Pourquoi les dernières grèves générales ont-elles été annulées ou arrêtées au bout d'une seule journée ? Demande-t-on à haute voix dans les cortèges. Les revendications principales sont la baisse du coût de la vie via le rétablissement ou la mise en place de subventions, le salaire minimum à 146 euros par mois et l'annulation des mesures dites d'assainissement des finances de l'État réclamées et obtenues par le FMI. D'autre part, la foule réclame la refonte totale du système électoral et du système judiciaire. Enfin, le train de vie de l'élite politique et la corruption sont fustigés. À Kano, on relève des pillages de magasins alimentaires, notamment dans un entrepôt attenant à la maison du gouverneur devant laquelle un feu de joie avait été allumé. Celui-ci décrète le soir même un confinement de 24 heures, comme dans 4 autres états où des bâtiments officiels ont été attaqués. En 3 jours, les manifestations de masse mettent la pression sur le président. Le 4 août, celui-ci exhorte les protestataires à stopper leur mouvement et à ouvrir le dialogue, malgré la répression meurtrière qu'il a lui-même préparée et mise en place. Arguant dès avant le 1er août que la contestation allait provoquer le chaos, il promettait que la police serait proactive pour empêcher les troubles. Un bilan de 13 personnes assassinées est sorti par Amnesty International au premier soir. 700 autres sont arrêtés et enfermés, et le troisième jour, la capitale Abuja est totalement quadrillée et les protestataires noyés sous les gaz lacrymogènes renoncent à défiler. Les militaires sont désormais présents aux côtés des forces de l'ordre civil. Ce même 4 août, des vidéos circulent sur X montrant des distributions géantes de sacs de riz de la part du gouvernement, en échange de l'assurance que les personnes recevant l'aide alimentaire ne manifesteraient pas. Or, l'appel au dialogue du président ne fonctionne pas vraiment. Dès le lendemain, les manifestations reprennent. Puis le 6, elles sont massives à nouveau, y compris dans le nord du pays où il faut pourtant braver le couvre-feu total. Kingsley Oudiale, un manifestant de Lagos, déclare.
Vous ne pouvez pas nous dire d'être patient alors que vous êtes en train d'acquérir un jet privé. La faim est la raison pour laquelle nous sommes tous ici. On ne peut pas battre un bébé et lui demander de ne pas pleurer.
There is nothing meaningful in the speech the president gave.
Tinubu n'a fait que répéter les mêmes choses. Il n'a pas mentionné de mesures qu'il pourrait mettre en place pour limiter l'inflation. Il n'a même pas mentionné nos revendications, et c'est pourquoi nous sommes toujours ici dans la rue. Le 7 août à Abuja, un tribunal ordonne aux manifestants et manifestantes de cantonner désormais leurs protestations à l'enceinte d'un grand stade situé en périphérie de la ville. Et si un rassemblement est effectivement appelé à cet endroit, le cortège se dirige le lendemain vers le centre-ville en chantant « Olé Tinubu, Olé Tinubu ». Ce qui veut dire « voleur Tinubu » en langue yoruba. Fébrile, le gouvernement attend le 10 août. Après une ultime journée consacrée aux personnes tuées par la police durant ces 10 journées de lutte intense, un calme relatif revient. La foule quitte la rue, non sans promettre une seconde phase de mobilisation dès le 1er octobre. C'est alors que s'enclenche la répression judiciaire. À Kano, la police enquête pour retrouver une 60aine d'hommes qui auraient brandi des drapeaux russes. À Lagos, ce sont les leaders les plus en vue qui sont appréhendés chez eux. Syndicalistes pour beaucoup, les accusés sont chargés de trahison, de mutinerie et d'organisation d'une guerre contre l'État. Des charges incroyablement lourdes et pouvant mener à la peine de mort. Isa Sanusi, directeur d'Amnesty au Nigeria, dénonce. La trahison, c'est une accusation très grave, un crime passible de la peine de mort. C'est pour ça que nous sommes inquiets. C'est ridicule et inacceptable que ces personnes soient accusées de quelque chose d'aussi grave. En plus, ils n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une assistance juridique. Vous ne pouvez pas maintenir quelqu'un en détention pendant un mois et lui refuser l'accès à un avocat. C'est une tentative de musellement pour que celles et ceux qui veulent critiquer le gouvernement aient peur. Au courant du mois de septembre, la perspective d'une nouvelle vague se construit sur les réseaux autour de la date du 1er octobre. Comme en Ouganda, cette reprise de la lutte coïncide avec la fête d'indépendance du pays, nouveau témoignage d'une certaine volonté de poser des ponts au-delà des frontières. Le mot d'ordre « Fearless in October », un mois d'octobre sans peur, se déploie sur la toile. Des dizaines d'affiches et de photographies appellent au rassemblement. Entre-temps, le gouvernement tente de justifier le bien fondé de ces réformes qui visent, selon lui, à soutenir l'investissement étranger, autrement dit, à utiliser l'argent public pour faciliter l'arrivée des multinationales dans le pays. Au Nigeria, deuxième producteur de pétrole du continent, ces multinationales se nomment par exemple Shell, Total ou Eni. Dans le delta du Niger où elles sont implantées, ces trois entreprises sont pourtant détestées car l'exploitation du pétrole dans la région est un fléau pour les locaux. C'est l'enquête Burning Skies, menée par un ensemble de médias et publiée en France par Mediapart, qui le révèle tout récemment. Les torchères, ces cheminées destinées à brûler le gaz qui surgit lors de l'extraction du pétrole, crachent leurs flammes en permanence et rendent l'air vicié. Des des banlieues des villes aux criques de la mangrove, les fumées noires contiennent un cocktail de composés chimiques, de suie et de particules fines. Elles provoquent aussi des pluies acides qui rongent jusqu'au toit de tôle. En quelques décennies, l'espérance de vie a chuté dans la région et de sévères troubles de la santé s'y développent, y compris chez les jeunes et les nouveau-nés. Éruptions cutanées, troubles respiratoires, hypertension, cancer avant 30 ans, fausses couches, maladies congénitales ou encore perte de la vue sont des conséquences directes de la pollution de l'air et des pluies. La culture ou l'élevage sont presque impossibles à Obagi, où l'enquête a été menée. Aucune eau n'est plus saine et le sol tue les graines qu'on y plante. La pratique des torchères est pourtant interdite depuis 1984. Seul le ministère du pétrole est autorisé à délivrer des autorisations spéciales assorties en principe de conditions. En 2006, la Haute Cour fédérale nigériane impose même à Shell de mettre fin au torchage en estimant que la multinationale a violé le droit humain fondamental à la vie des personnes qui vivent à proximité. Le jugement n'a jamais été appliqué, faute de volonté du gouvernement. Et les bénéfices de ce genre d'investissement étranger ne retombent malheureusement que rarement sur les personnes qui en subissent l'impact. Au contraire, une fois leurs profits réalisés, les multinationales quittent la région, revendant les infrastructures à des sociétés nigérianes qui n'ont pas les moyens de moderniser les sites. Le 30 septembre d'ailleurs, des femmes du Delta se mobilisaient pour protester contre l'industrie pétrolière. I couldn't have done this better, I couldn't have done this any other way. I live in an era filled with so much rot and decay. I go to bed every night filled with thoughts of dismay. I fear my quota may not even scratch the surface of change. But I dare to say I'm here now, make you not here now. Tôt le matin du 1er octobre, des petits groupes de protestataires se forment dans les rues d'Abuja. Les gens chantent « We're not afraid »,« Nous n'avons pas peur » ou « We are hungry »,« On a faim ». Les vidéos affluent sur les réseaux. Tout le pays semble mobilisé, dans les quartiers, dans les petites villes, dans les périphéries. De nombreuses localités ont leur cortège de quelques dizaines ou quelques centaines de personnes. À Abuja, la masse gonfle toute la matinée et bloque l'une des grandes artères de la ville. La police finit par attaquer à coups de gaz lacrymogène, tout comme à Port Harcourt dans la région du Delta. Dans la capitale, comme à Kano et Jos, des arrestations sont reportées. À Lagos, des milliers de personnes occupent les rues et font le tour de la ville, précédées d'un cordon de forces armées. Une femme s'exclame au micro de News Central Africa.
Les Nigérians et les Nigérianes sont ici pour se célébrer en tant que survivants face aux mesures massives que ce gouvernement nous impose. Nous sommes censés célébrer l'indépendance, mais il n'y a rien d'indépendant à être un peuple qui ne peut pas se nourrir et qui ne peut pas aller à l'école. Il n'y a rien d'indépendant à être un peuple dont la sécurité n'est pas assurée. Il n'y a rien d'indépendant à être des citoyens et des citoyennes qui ne peuvent pas parler librement sans être accusés de trahison, arrêtés et kidnappés par leur gouvernement. Donc les Nigérians sont ici pour dénoncer la répression du gouvernement qui s'en prend à des jeunes qui luttent pour survivre. Ceci est un avertissement. Ceci est un avertissement pour le gouvernement qui doit rétrocéder et cesser d'obéir au système capitaliste qui a détruit la santé de ce pays et qui l'a privé de toutes ses ressources, sans bénéfice pour les précaires. Nous voulons un gouvernement honnête et qui soit au service du peuple. All these happenings around me, they too much to bear now. It's either an explosion or a bum skin now. See, I did fear now, but I've come too far, not a care now, not a care now, not a care now. C'était l'actu des oubliés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au doublage, Lola et Pierre. Vous pouvez continuer à nous suivre en vous rendant sur l'audioblog L'actu des oubliés où vous trouverez nos sources ainsi que les épisodes précédents. If I said I was good and fine, then I'd be lying. Cause it's seeming like the situation's getting permanent. Now all I see are people who have turned into mini, mini local governments. Provide your power, provide your water, provide your own security. En termes de musique, vous avez pu écouter Reject Finance Bill de Sir Newson, Igara de MZ Kiss et We Ain't Alright de Cyclone. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Belle lutte et belle semaine. Conditions got them all bent up like prawns. And then they say Western education is sin. Huh? Is that how you feel within? How do you victimize when you are a victim? Why don't you realize you're human first before Muslim or Christian? We are products of a mind and systems pollution. God knows we need a resolution. Long as our government right, then we alright. Long as our safety right, then we alright. If education's right, then we alright. If the power's right, then we alright. Long as the people right, then we alright. Alright, alright.
Long as the children rap, then we alright. Cause I love you more than anything. Man, it's life over everything. We ain't alright.